VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest, au Bénin. Prestation de serment aujourd'hui du nouveau président Patrice Talon à Porto-Novo, la capitale politique du pays. Après l'euphorie de cette cérémonie, les populations préparent la liste des changements qu'elles souhaitent au niveau de l'administration publique. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Je déclare du haut de cette tribune que non seulement je n'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt. Maintenant.
La tâche qui attend Patrice Talon est énorme et lui-même mesure la portée du chantier des réformes institutionnelles, administratives, de la lutte contre la corruption qui l'attend. Et même s'il est venu au pouvoir dans la clameur et la bénédiction d'un peuple acquis à sa cause, il doit persévérer pour satisfaire les uns et les autres. D'ailleurs, certains l'attendent déjà sur le terrain des réformes. Pour certains acteurs de la vie sociopolitique, Patrice Talon n'a pas droit à l'erreur. Ils disent tout de même compter sur lui quant à la tenue des promesses faites pendant les campagnes électorales.
C'est une personne effectivement qui a opéré longtemps dans les affaires. Donc il connaît mieux que quiconque les préoccupations qui sont les nôtres. Une justice efficiente, un secteur privé dynamique, un système bancaire accessible à tous.
Et nous devons l'aider, nous devons le soutenir, lui donner si c'est possible quelques conseils pour qu'il soit dans la ligne. Parce que nous avons vécu 10 ans de calvaire. Nous voulons en finir avec ça.
On espère que... Parce qu'une chose, c'est de faire un beau discours. Une autre chose, c'est de voir cela se traduire dans la réalité. Et nous attendons qu'il réussisse à concrétiser, n'est-ce pas, tout ce qui est dit. Parce que quand on a écouté ce discours, on peut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est venu pour faire à la tête de l'État.
Les syndicalistes, même s'ils approuvent l'élection de Patrice Talon, ne comptent pas lui faire de cadeau s'il arrivait à faillir à sa mission. On écoute quelques-uns.
Nous exigeons la fin de l'impunité et de la corruption dans notre pays. Eh oui, on parle de fin de l'impunité. Et puis, on peut nous dire, ah, si on fait ça, est-ce qu'il n'y aura pas chasse aux sorcières? La CSTB dit, pour rompre avec ce que Yahi avait fait jusque-là, eh bien, il faut faire les audits. Eh bien, il faut interroger les différentes affaires.
Nouveau départ, ce n'est pas le président Talon seul, hein, non. Nous lui avons délégué une partie de notre souveraineté. Le peuple lui a délégué une partie de sa souveraineté. Et c'est au peuple de dire, voilà ce que nous voulons. Le peuple s'est exprimé et les vox populi que les journalistes ont fait sont très très édifiants dans ce domaine.
100 jours, c'est le délai donné pour constater la véracité des promesses électorales faites par Patrice Talon il y a quelques semaines. De Cotonou, Ginette Fleur Adondi pour VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la décision du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de révoquer le mandat de 15 députés du groupe parlementaire du PAIGC, le parti au pouvoir, parce qu'ils avaient voté contre le programme du gouvernement. Les détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Selon une source fiable, les partis impliqués dans le processus vont être informés aujourd'hui au sujet de l'arrêt de la Cour suprême qui sera ensuite rendu public à la presse. Les 15 députés avaient et toujours rejeté la décision du comité permanent parce que selon eux, le comité permanent aurait violé le statut de député. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, et la commission permanente de l'Assemblée nationale populaire n'ont pas encore réagi à cette décision de la Cour suprême. On le rappelle, les responsables de l'Assemblée nationale populaire avaient affirmé que la décision de retirer le mandat aux 15 est irréversible. Noah Mankali Bissau, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, le leader d'opposition Guy Brice Parfait-Kolelas, arrivé deuxième à la présidentielle du 20 mars, conteste le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé l'élection au premier tour du chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso. Mais le candidat perdant déclare respecter le verdict de la Haute Cour tout en exigeant une enquête indépendante sur les troubles qui ont éclaté il y a deux jours à Brazzaville. Au micro d'Eddie Sango, les explications de Guy Brice Parfait-Kolelas.
Je respecte leur verdict parce que je suis démocrate, mais je le conteste en même temps. J'invite cependant le président Denis Sassou Nguesso, proclamé vainqueur par cette cour constitutionnelle, à avoir le triomphe modeste, car cette élection a été émaillée d'irrégularités de tout genre. Je sais, et eux-mêmes ils savent qu'il y avait un deuxième tour d'élection présidentielle et que j'étais qualifié pour aller à ce deuxième tour. J'ai les résultats avec moi.
Vous avez introduit un recours qui a été rejeté, mais qu'est-ce que vous allez encore faire?
Le recours a été rejeté pour des bêtises farfelues et j'ai démontré que c'était faux. Les allégations de la Cour étaient fausses. Donc, je veux regarder avec mes avocats conseils si auprès de la Cour africaine de justice, nous pouvons intenter un procès à cet effet parce que les articles 25, 26 et 71 de la Constitution ont été violés librement. Le vote s'est passé à pendant qu'il n'y a qu'un seul candidat qui était en contact avec ses équipes de campagne sur le terrain, et cela pendant 4 jours. Nous nous retrouvons dans la situation où nous jouons un match de football, les lumières sont éteintes dans un stade de football, et quand on les rallume, il y a un but au fond du filet. Va-t-on valider ce but?
Votre déclaration est faite alors que le pays est sous tension avec les troubles qui ont éclaté il y a 2 jours, et les pouvoirs vous accusent, vous, de l'opposition. Qu'en dites-vous?
Le pouvoir est dans le tort. Parce que le ministre de la Communication qui a fait cette annonce en accusant les ex-combattants ninja de l'année 93-97 d'avoir commis ces faits, je ne comprends pas. Ce même pouvoir dit que les enquêtes sont en cours. Mais pendant qu'on mène des enquêtes, on accuse une partie de la population. Et puis, monsieur le journaliste, qu'on explique, ces mêmes ex-combattants sont venus dans Brazzaville. Ils auraient livré bataille avec les forces publiques aux abords des commissariats de police. Nous avons entendu des détonations des armes lourdes et légères, mais pas d'impact des balles dans les murs, pas d'impact des balles dans les commissariats qui ont été attaqués. Alors, les assaillants tiraient où? Les assaillants tiraient sur qui? Mais cependant, on nous a montré les commissariats brûlés. Ma peur, c'est que le Congo replonge dans les années 80 et 90 du monopartisme totalitaire, du marxisme, où on inventait les faux coups d'État et les fausses preuves. Mais les populations témoignent par-ci, par-là, qui les ont entendus parler une langue qui n'est pas parlée dans le département du Pôle. Ils parlaient lingala et consort. Alors, qui sont ces assaillants? La lumière doit être faite.
Le leader d'opposition Guy Brice Parfait Kolelas au Congo-Brazzaville. En Libye, le gouvernement d'union nationale du Premier ministre Fayez al-Sarraj s'attelle maintenant à imposer son contrôle sur les finances et les institutions au lendemain de la décision des autorités non reconnues de Tripoli de lui céder le pouvoir. Un pas important dans les efforts pour sortir la Libye du chaos, John Lingdon.
Une semaine après son arrivée à Tripoli, le Premier ministre Fayez al-Sarraj a engrangé un nouveau succès avec le ralliement du gouvernement de Tripoli. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, l'a salué comme une bonne nouvelle, tout en soulignant que les actes devront suivre les paroles de soutien. À Tripoli, un optimisme fragile pointe son nez chez des habitants, lassés du chaos, et plusieurs pays envisagent d'y rouvrir des ambassades. Le gouvernement d'union a ordonné à toutes les institutions et tous les ministères d'utiliser son logo. Il leur a surtout intimé l'ordre d'obtenir son feu vert pour effectuer toute dépense. Les salaires des fonctionnaires continueront à être payés normalement, a toutefois précisé l'exécutif d'union qui veut s'assurer le soutien populaire. L'Italie, l'ancienne puissance coloniale, a jugé encourageant les récents développements en vue d'une Libye unie, stable et sûre.
Pour terminer les primaires présidentielles aux États-Unis, les favoris Donald Trump chez les Républicains et Hillary Clinton chez les Démocrates ont chacun essuyé un revers mardi dans le Wisconsin, permettant ainsi à leurs concurrents de légèrement rattraper leur retard dans la course aux délégués pour l'investiture comme candidat à la présidence. Côté démocrate, le sénateur du Vermont Bernie Sanders et chez les Républicains, son collègue du Texas Ted Cruz se présentent désormais comme de sérieuses alternatives dans leurs camps respectifs. Pour l'ancien diplomate américain Herman Cohen, les résultats du Wisconsin pourrait inverser les tendances. On l'écoute.
Ça peut être un tournant. Nous allons voir la prochaine élection. C'est important, c'est à New York. New York, il y a un grand nombre de délégués. C'est un État qui a, vers le nord, ils ont des républicains. Et dans la ville de New York, c'est très démocratique. Donc on va voir. Si Sanders et Cruz gagnent à New York, donc, c'est toute une autre histoire. L'élection peut basculer vraiment. Donc, c'est toujours très difficile de faire une prédiction pour qui va gagner. Maintenant, on ne peut plus dire ça.
L'ancien diplomate américain Herman Cohen. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.